Bien, je vous souhaite la meilleure année comme il se doit, même si, semble-t-il, l'année commence très mal. Je vous avais laissé sur le 19e siècle. Je pense que nous y resterons encore fort longtemps, non seulement dans les deux séances du mois de janvier, mais aussi dans les séances de l'automne, parce que finalement, il se trouve qu'il y a beaucoup à dire sur le 19e siècle entre arabes et ottomans. Et j'en étais arrivé au fait que la révolte grecque, qui peut être définie comme un soulèvement des chrétiens orthodoxes balkaniques, avait pris progressivement une d'entité nationale et que ça avait été lié au rôle très important joué par le mouvement philhellène en Europe, et je reprends Lord Byron, Delacroix, Victor Hugo, etc., qui faisait que les Européens de l'Ouest avaient vu dans la révolte grecque la résurgence de la Grèce antique et qu'ils avaient donc soutenu ce mouvement, ce qui avait amené une rupture politique dans l'espace européen du Congrès de Vienne, puisque le Congrès de Vienne avait voulu rétablir le principe de légitimité et mettre en quelque sorte hors la loi le nouveau principe politique qui était le principe de nationalité. Et des gens comme Metternich s'étaient posé la question de savoir si la révolte des Grecs de l'Empire ottoman ou des chrétiens de l'Empire ottoman n'était pas une remise en cause du principe de légitimité. D'où le fait que ça introduisait pour les conservateurs européens comme Metternich l'idée que l'Empire ottoman était légitime comme État conservateur, justement. L'étape suivante, aussi bien chronologiquement que dans la pierre logique des événements, est la prise d'Alger par les Français en 1830. C'est exactement le type des vêtements liés à la fois à la contingence et à la structure, puisque la crise qui amène la prise d'Alger est liée à un vieux contentieux financier datant de l'époque du Directoire en France, mais aussi à une volonté de la France de restaurer un prestige perdu après Waterloo. Si vous voulez, la catastrophe française absolue, c'est 1815, c'est Waterloo, et depuis 1815, les Français font la guerre pour établir leur place, leur rang dans le monde. Bon, ça a été renouvelé après 1940, évidemment, mais ça a été le grand moteur, et déjà dans les années 1830, on trouve l'expression « il faut que la France conserve son rang ». Utilisation du terme que réutilisera M. François Mitterrand en 1990. Volonté de maintenir ou de retrouver le rang de la France après 1815, volonté aussi qu'un épisode important qui n'a pas été vraiment souligné par les historiens français, qui est l'orientation méditerranéenne de la France dans cette période, en quelque sorte chassée de la rive gauche du Rhin après la chute de l'Empire, la France se redéploie sur la Méditerranée avec une intervention en Espagne en 1821, une intervention en Morée, Péloponnèse, en 1829, et ensuite la prise d'Alger. Donc il y a une politique méditerranéenne, assez brouillonne, honnêtement parlant, mais qui montre bien que la politique française se reconcentre sur la Méditerranée, ce qui d'ailleurs causera des inquiétudes permanentes à la Grande-Bretagne durant tout le 19e siècle. Et nous le verrons peut-être dans 2 ou 3 ans, au rythme où je vais mes histoires, que ceci est un des actes, des conditions de l'alliance franco-britannique qui amène à la guerre de 14. Mais ça, c'est un autre point que nous étudierons peut-être dans 2 ans au rythme où le cours progresse. Ça, tout ça, ce sont des éléments contingents, en quelque sorte, mais en même temps, ça s'inscrit tout simplement dans le grand mouvement d'expansion européenne qui a démarré à la fin du XVIIIe siècle. Un grand historien américain, Hodgson, avait souligné le fait que c'est la même génération qui fait la Révolution française, la Révolution industrielle et l'expansion coloniale de l'Europe. Avoir 20 ans en 1780, c'est les 3 choses que les Européens font. Donc, il y a évidemment une relation logique entre les 3, la révolution politique, la révolution industrielle et l'expansion coloniale. Alors, les Français, ils ne savent pas très bien quoi faire en Algérie une fois qu'ils ont pris Alger. Ils sont assez embêtés. Au départ même, ils avaient pensé à demander à Mehmed Attali, Mohamed Ali, de prendre Alger à leur place, mais lui, il était intéressé à autre chose. Alors, je n'ai pas le temps de développer ici, je l'avais fait dans un livre jadis, publié en 1989, qui s'appelait « Le Royaume impossible », qui montrait comment les Français s'étaient posé la question de savoir s'ils allaient reconnaître ou non une nationalité arabe en Algérie. D'abord, c'est les Français qui intitulent la population comme étant arabe, les gens n'étant pas au courant à l'époque qu'ils étaient tous des Arabes en Algérie. Ce sera à l'aigle de la colonisation française. En effet, en 1830, la monarchie restaurée avait repris le discours de Bonaparte en Égypte. C'était d'ailleurs un professeur au Collège de France et administrateur du Collège de France, Sylvestre de Sacy, qui avait rédigé en magnifique arabe classique la proclamation à la prise d'Alger à la population algérienne. Ce problème, il était tellement en arabe classique que les Algériens ne comprenaient pas son texte. Mais bon, puisqu'il commence par « vous les Marocains », bon, c'est comme ça qu'on peut se tromper, même quand on est le plus grand arabisant du 19e siècle, puisque Sylvestre de Sacy a été le plus grand des arabisants européens du 19e siècle. Donc, jusqu'en 1837, de toute façon, les Français se battent contre les Ottomans en Algérie, sans déclarer la guerre à l'Empire ottoman, d'ailleurs, puisque c'est la prise de Constantine qui met fin à la présence ottomane en Algérie. Alors, l'idée dans les années 1830, c'est que les Français pourraient se contenter d'une présence sur le littoral algérien et concéder l'intérieur à un souverain arabe vassal, un royaume arabe vassal. Et après la prise de Constantine, ils avaient trouvé que l'émir Abdelkader était la personne idoine pour un tel emploi. Et ça avait été le sujet du traité de la Tafna entre Bujou et Abdelkader. Mais ça n'a pas marché. Et en 1841, après, nous le verrons tout à l'heure, la nouvelle défaite française en Orient en 1840, la France maintient son rang en laissant une guerre de conquête d'une violence terrifiante et dévastatrice en Algérie entre 1841 et 1847. Alors, dans tout ça, ce qui nous intéresse ici, c'est que la question qui s'était posée aux décideurs et à l'opinion publique française était que si on reconnaissait que l'Algérie était peuplée par des Arabes, existait-il une nation ou une nationalité arabe? Et à partir du moment s'il existait une nationalité arabe, eh bien, à ce moment-là, on pourrait appliquer le principe de nationalité à l'Algérie, comme on venait de le faire pour la Grèce. Et finalement, en 1832-33, et puis définitivement après l'échec du traité de la Tafna en 1840, la France a abandonné l'idée d'un royaume arabe indépendant en Algérie ou de l'application des principes de nationalité. Et c'est un moment essentiel de l'histoire coloniale européenne parce que c'est le seul moment, à la limite, où on s'est posé la question. On vous a fait des beaux livres d'histoire coloniale. Vous avez eu des manuels, c'était même jadis enseigné dans l'enseignement secondaire, l'histoire coloniale, mais on ne vous a pas dit une chose simple. On ne colonise que des non-chrétiens. Les empires coloniaux européens se sont développés dans des pays musulmans, animistes, hindouistes, confucianistes, tout ce que vous voulez, mais pas de pays chrétiens. C'est une des explications, d'ailleurs, pour lesquelles il n'est pas question de faire des colonies dans les Balkans, puisque c'est peuplé de chrétiens. Et les seules exceptions seront Chypre, en 1878, par les Britanniques, mais dans un contexte très différent. Et l'échec italien en Abyssinie, en 1896, quand les Italiens se sont fait battre par les Éthiopiens lors de leur tentative de conquérir. Donc en 1935, oui, mais 1935, la colonisation est déjà passée de mode à ce moment-là. Donc l'événement algérien est essentiel puisque c'est le moment où les Européens définissent implicitement que la colonisation ne touche que des peuples non chrétiens. Ou plus exactement, que les peuples non chrétiens ne sont pas accessibles au principe de nationalité. Alors, si Mehmet Ali avait décidé de ne pas participer à l'expédition d'Alger, ou de le faire pour le compte des Français, c'est parce qu'il était beaucoup plus intéressé par la Syrie. Et il prend prétexte d'une fuite de paysans égyptiens, ce qui était un vrai problème, nous le verrons, puisque l'oppression sociale et économique de l'Égypte était terrible sous Mehmet Ali. Donc, en effet, des fuites de paysans vers la Palestine et la Syrie étaient considérées comme une véritable agression par Mehmet Ali. C'est tout simplement le mouvement qu'on appelle l'anachorèse, la fuite des paysans égyptiens. Ils sont très patients, on leur tape dessus pendant très longtemps, ils ne disent rien, mais à un bout de certains moments, les paysans égyptiens ils foutent le camp quand ça devient trop difficile ou trop insupportable. C'est une autre règle d'histoire de l'Égypte à travers les millénaires. Alors, donc, ça porte un nom dans l'histoire égyptienne, on appelle ça l'anachorèse, la fuite des campagnes. Mehmet Ali déclare la guerre à son voisin, le pacha d'Acre, ce qui déclenche une guerre civile ottomane. Mehmet Ali joue sur le mécontentement créé par les premières réformes ottomanes, mais le but aussi de Mehmet Ali, bon, c'est évidemment de renforcer son pouvoir, mais en établissant un État moderne. Et c'est son fils, le grand Ibrahim Pacha, que je vais là, si, qui prend le commandement des armées égyptiennes. On mettait toujours un guillemet pour égyptienne dans la période qui envahit la Syrie. Et en mai 1832, Ibrahim Pacha prend Acre, ce qui est un moment essentiel dans l'histoire du Proche-Orient, ce qui lui donne un prestige extraordinaire parce que Bonaparte n'a pas réussi à prendre Acre en 1799, tandis que lui l'a fait en 1832. Ensuite, l'armée d'Ibrahim Pacha prend Damas, puis pénètre, passe le Taurus, pénètre en Anatolie et arrive au centre de l'Anatolie Et ça, ça termine par la grande victoire de Konya le 21 décembre 1832, où l'armée ottomane est écrasée au centre de l'Anatolie à Konya, et il n'y a plus rien entre l'armée égyptienne et Constantinople. Évidemment, cela provoque la panique en Europe. On sent qu'une partie des élites ottomanes sont prêtes à se rallier à Mehmet Ali et à détrôner le terrible Mahmoud II. Alors, à ce moment-là, le mécanisme de la crise d'Orient s'enclenche, puisque ce sont les Russes qui interviennent immédiatement, en envoyant un corps expéditionnaire et une flotte à proximité de Constantinople, suivi par les Britanniques qui envoient leur flotte de guerre à leur tour en mer de Marmara, sous la règle absolue, touche pas à la route des Indes. Donc la France soutient diplomatiquement Ibrahim Pacha et Mehmet Ali. Mais enfin, bon, on est au bord de la guerre généralisée et surtout, c'est la route des Indes qui est touchée et le sort de l'Empire ottoman. Donc, les diplomates s'activent, les Français, les Anglais, les Russes, etc. On envoie des émissaires auprès d'Ibrahim Pacha qui, finalement, devant la pression européenne, y compris française, d'ailleurs, accepte de retirer son armée d'Anatolie contre la reconnaissance de l'autorité de son père, non seulement sur l'Égypte, mais aussi sur la Syrie. Je rappelle qu'il contrôle aussi déjà Crète, la Crète, le Soudan et l'Arabie centrale et le Hedjaz. Donc il y a un véritable empire qui s'est créé autour de la vice-royauté égyptienne. On est dans un calme précaire, que vous voyez dans cette gravure de Granville, inspirée de Rabelais, qui est une critique de la politique étrangère de Louis-Philippe, avec le sultan Mahmoud II, Nicolas Ier, à cause de l'intervention russe dans les Dardanelles. Le roi d'Angleterre est sur le côté en train de boire une tasse de thé, et ainsi de suite. Donc, c'est les gravures politiques l'époque. Et dans un livre récent que j'ai publié sur Lamartine et la question d'Orient, puisqu'il faut faire un peu son autopromotion, j'ai montré que c'est probablement en 1832, dans la correspondance diplomatique, qu'apparaît le terme « question d'Orient ». Pour la première fois en anglais, en même temps qu'en français, pratiquement « Eastern Question ». Les Égyptiens, Mehmet Ali et Ibrahim Pacha, il y a une différence d'une génération entre les deux, ne savent pas trop quoi faire dans la question. Mohamed Ali semble hésiter entre se présenter comme réformateur de l'Empire ottoman, quitte à détrôner la dynastie ottomane, ou la constitution d'un État égyptien indépendant, en appliquant le principe des nationalités. Enfin, en tout cas, lui, s'il ne comprend pas ce que ça veut dire, mais Mehmet Ali, le principe des nationalités, ce qu'il comprend, c'est que les Européens ont reconnu l'indépendance de la Grèce en 1829. Donc, il souhaiterait qu'on lui applique la même règle pour lui. Ibrahim Pacha, lui, il est plus moderne. D'abord, il est plus jeune. Et il est entouré, nous aurons l'occasion de revenir, de jeunes de la maison d'Ibrahim Pacha, de la Beit d'Ibrahim Pacha, d'un certain nombre de jeunes qui sont allés faire leurs études en Europe, et en particulier en France. Il y a, dans l'entourage immédiat d'Ibrahim Pacha, des Saint-Simoniens égyptiens. Donc les gens les plus modernes de leur temps. Donc lui, Ibrahim Pacha, va tenir devant les émissaires européens des discours qui évoquent la constitution d'un empire arabe, d'une nationalité arabe que les Européens devraient reconnaître. Et c'est vrai que parallèlement au débat dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'Algérie, vous avez un débat politique en France en 1833 pour savoir si ou non on doit reconnaître une nationalité arabe en Syrie. Alors évidemment, quand Ibrahim Pacha tient ses propos à ses interlocuteurs européens, il ne tient pas les mêmes propos à la population syrienne. D'abord parce qu'en 1833, le terme arabe serait complètement anachronique pour les populations syriennes. Et ils ne comprendraient pas de quoi il s'agit. Mais il est certain aussi que le discours d'Ibrahim Pacha n'est pas simplement un discours circonstanciel destiné à la diplomatie européenne et à la propagande à destination des opinions publiques européennes, mais renvoie à l'ébranlement des structures sociales de l'espace ottoman. Parce que ça, le moment essentiel, dans les années 1820-1830, l'ancien régime ottoman est en train de s'effondrer. C'est en train de s'effondrer parce que son premier pilier était l'armée de métier. Or, l'armée égyptienne est une armée de conscription, donc on n'a plus une classe de militaires professionnels comme les janissaires, etc. On fait l'appel à la conscription, on est moderne et donc c'est l'ensemble de la société, ou en tout cas de la population musulmane, qui est appelée à porter les armes dans l'empire de Mehmet Ali. Et aussi maintenant dans l'empire de Mahmoud II, là où il peut se faire obéir. Donc c'est déjà un des points essentiels du contrat social d'ancien régime qui a été détruit. La révolte grecque a détruit un autre pilier qui était la soumission des non-musulmans à l'autorité impériale, et la guerre civile entre le Caire et Constantinople est en train de détruire d'autres piliers du système ottoman, puisque les deux, Mehmet Ali et Mahmoud II, font appel à l'opinion publique, chacun accusant l'autre de s'être lancé dans des réformes de modernisation qui sont des christianisations ou des occidentalisations. Donc il y a tout un débat idéologique dans cette société, dans les années 1830. Et évidemment, cela se répercute dans ce discours tenu sur les Arabes. Comme Ibrahim Pacha parle d'Empire arabe, il pense aussi au conflit de loyauté entre les gens de sa maison, qui sont les Ottomans, et ceux de la maison de Mahmoud II. C'est un conflit de belt, de maison impériale. En donnant une référence géographique aux gens de sa maison, il les coupe, en quelque sorte, du reste de l'Empire, puisque toute la classe dirigeante est issue de la maison, soit celle du sultan, soit celle du viceroy. En tout cas, cette fenêtre d'opportunité des 1833 se termine et les diplomaties françaises, qui n'en manquent pas une, disent « Bon, il n'est pas encore le temps de faire une nationalité arabe en Syrie, mais il serait bon que Ibrahim Pacha mette fin aux différences confessionnelles en Syrie. » Vaste programme dont on attend encore les résultats. Donc, Ibrahim Pacha va gouverner de 1833 à 1839 la Syrie, au sens large du terme, et va établir une administration moderne avec un système de taxation qui comprend en particulier un impôt de capitation, donc un impôt par tête, ce qui est considéré comme une injure mortelle, puisque la capitation en islam était réservée aux non-musulmans. Donc c'est ressenti par les populations musulmanes comme étant un signe d'esclavage, en quelque sorte, d'être mis au niveau des non-musulmans. de payer une capitation. On a là vraiment le choc de la modernité. Imam Pacha veut construire un État moderne. Et il se heurte à la défense des libertés traditionnelles des différents groupes de la société ancienne. Et de la même chose, l'établissement de la conscription est ressenti là aussi comme un esclavage, un assujettissement pour des gens qui se considéraient comme traditionnellement libres de ce genre d'obligations. Il produit aussi des conseils consultatifs dans les provinces syriennes, Majlis al-Shura, afin de seconder et d'avaliser les décisions. Ce n'est pas tellement l'instauration de ces conseils consultatifs qui est important, mais pour la première fois, dans ces conseils consultatifs, on nomme des représentants chrétiens et juifs à côté des représentants musulmans. Cet ordre autoritaire, ressenti comme tyrannique, suscite une révolte en Palestine en 1834 de toutes les composantes de la population musulmane. Elle sera très durement réprimée par les troupes dites égyptiennes. Et ça va entrer ensuite dans la mémoire palestinienne ou dans l'historiographie palestinienne comme la première manifestation d'un nationalisme palestinien ou au moins d'une identité palestinienne, cette grande révolte de 1834. Une autre révolte dans le Horan, en Syrie, on aura l'occasion d'y revenir sur le Horan tout à l'heure, en 1838 connaît le même sort. Comme en Égypte, là aussi, l'ordre égyptien passe par le refoulement des Bédouins dans la Badia pour assurer la sécurité de la paysannerie sédentaire. Et aussi, signe des temps, Ibrahim Pacha encourage la remise en culture des plaines littorales et des vallées de l'intérieur. En Égypte même, ces années 1830 sont des années terribles. Il faut rappeler le grand choc épidémique du choléra de 1831-1832 qui, pour l'Égypte seule, aurait causé 120 000 morts pour une population de 5 millions d'habitants. Je vous rappelle que le choléra est allé jusqu'à Paris. Il a fait des dizaines de milliers de victimes en France, le grand choléra de 1832-1833, avec un décalage géographique. Donc, les années 1830, c'est vraiment la mauvaise période parce qu'on a les premières épidémies de choléra et les dernières épidémies de peste. Puisque la peste va disparaître vers 1840 en Méditerranée. Ensuite, on a des périodes de crues insuffisantes du Nil. L'arrivée de la peste en 1834-1835, qui fait 200 000 victimes en Égypte seule, ce qui fera partir les Saint-Simoniens d'ailleurs. Bon, quelques Saint-Simoniens resteront en Égypte, mais les autres partiront en Algérie où c'est plus calme. Ensuite, on a aussi une crise de la baisse du prix du coton, liée à la crise financière des 1836-1837. Pour l'Égypte, comme pour la région, le coton dans les années 1830, c'est l'équivalent du pétrole d'aujourd'hui. Donc, quand vous avez une crise financière en Europe, vous avez une chute de la consommation de coton en Europe, donc un effondrement des prix du coton l'extérieur. C'est le même mécanisme que ceux que nous connaissons aujourd'hui pour le pétrole. En 1839, les Ottomans reprennent l'hostilité, sont de nouveau battus par Ibrahim Pacha, mais cette fois-ci, les Britanniques, sous l'inspiration de Lord Palmerston, qui à l'époque dirige la politique étrangère britannique, secrétaire au Foreign Office, envoient un soutien matériel et naval à une nouvelle insurrection contre le pouvoir d'Ibrahim Pacha, ce qui suscite une nouvelle crise d'Orient, celle de 1840, où la France, qui est seule à soutenir Mehmet Ali, Ibrahim Pacha, se trouve isolée en Europe. Alors, comme les Français sont bons pour la communication, ils disent, dans ce cas-là, on va prendre la rive gauche du Rhin, ce qui réussit à coaliser tous les pays allemands contre la France. Vous savez, il y a un célèbre poème de Musset, nous reprendrons la rive gauche du Rhin. Là où nos ancêtres sont passés, nous passerons, quelque chose comme ça. Et du coup, les autres avaient répliqué par le Rhin allemand, enfin, bon, ou inversement, enfin, ça a été assez terrible. La politique à l'époque, c'est Thiers qui est Premier ministre de Louis-Philippe, a été une politique qu'on appellerait aujourd'hui au bord du précipice. Parmi les décisions prises par Thiers dans un risque de guerre européenne, il y a la décision de créer les fortifications de Paris, qui seront créées à partir de 1840, ce qui va influencer jusqu'à aujourd'hui toute la topographie parisienne, puisque vous savez que l'actuel boulevard périphérique est sur la zone des fortifications et que les forts de Rosny-sous-Bois, etc., sont les forts avancés des fortifications de Thiers établies dans les années 1840 à cause de cette fameuse crise de 1840. Donc, vous voyez cette caricature de l'époque sur la crise d'Orient, où l'intervention d'une grande puissance dans la question d'Orient, cette grande puissance n'est autre que la mort, hein, comme le montre cette très belle caricature datant du 20 juillet 1839, si j'arrive à lire correctement la légende. Finalement, Louis-Philippe revient à la raison. Il fait tomber Thiers et il nomme Guizot comme Premier ministre, enfin, comme président du Conseil. Et on arrive à un règlement compliqué qu'on appelle le traité de Londres de 1840 et plus les règlements annexes de 1841, dans lequel l'Égypte abandonne ses possessions, aussi bien la Crète que la Syrie-Palestine et la péninsule arabique, contre la reconnaissance d'une vice-royauté héréditaire dans la famille de Mehmet Ali en Égypte et dans son prolongement soudanais. Les deux crises d'Orient, celle de 1833 et de 1840, marquent ainsi l'établissement définitif de l'imbrication du système politique oriental au sens large du terme, la route des Indes, dans le système européen. Cela fonctionne dans les deux sens. Chaque acteur local doit compter sur le rôle des puissances européennes et jouer sur leur opposition. Il lui faut donc établir des relations d'alliance et de protection et, si possible, tenir un discours susceptible de lui attirer les sympathies de l'opinion publique du protecteur considéré. L'Égypte de Mehmet Ali avait ainsi pu capter à son profit l'influente légende napoléonienne, tandis que les chrétiens d'Orient jouaient sur la fraternité religieuse avec le christianisme européen. Et si vous voulez, bon, évidemment, je vous ai dit que c'était déjà établi lors de la guerre de la Seconde Coalition, mais 1833-1840, c'est la nouvelle étape. Maintenant, vous ne pouvez plus soulever un caillou au Proche-Orient sans y impliquer un paquet de grandes puissances internationales dans l'affaire. Ceci est encore valable en 2015, puisque vous avez encore sur le terrain actuellement une coalition qui se bat au Proche-Orient. Donc, en cela, les événements de 1833 et 1840 sont les événements prototypiques qui nous permettent encore d'analyser ce que nous avons aujourd'hui sous nos yeux au Proche-Orient. C'est pour ça que je dis que ce qu'on connaît aujourd'hui en Égypte, en Syrie et en Irak et la poursuite de cette question d'Orient. On notera aussi qu'entre 1833 et 1840, le principal enjeu de la question d'Orient était le sort de la Syrie. D'où le fait que les géopoliticiens européens ont été amenés à définir un objet qui n'existait pas auparavant, qui s'appelait la Syrie. Et du coup, à force d'utiliser le terme Syrie, les Ottomans ont adopté le terme Syrie eux-mêmes, venant des Français et des Anglais ou des Allemands. Donc c'est la première étape, nous aurons l'occasion d'y revenir, de la réintroduction du vocable Syrie dans la politique moyenne-orientale. Point annexe, qui n'est pas lié à la crise, mais qui va jouer dans les étapes postérieures. Depuis les années 1820, au Proche-Orient, on a vu l'arrivée des missionnaires protestants anglais et américains, les biblistes, on les appelle des biblistes parce qu'ils passent leur temps à distribuer des bibles aux indigènes, et qui ont développé un intense prosélytisme à destination des non-musulmans, les autorités ottomanes ayant fait comprendre que s'ils essayaient de convertir les musulmans, il y aurait des décapitations dans l'air. Donc, ces missionnaires qui arrivent dans le Proche-Orient, ces protestants, ce sont des missionnaires inspirés par toute une théologie protestante qui date du XVIIe siècle, qu'on appelle l'accomplissement des prophéties. Qui est une interprétation de l'Apocalypse de Saint Jean et d'un certain nombre d'autres textes bibliques, selon lequel la fin des temps va bientôt se produire. Évidemment, comme vous le savez, la bataille finale entre le Christ et l'Antéchrist a lieu à Margédon, qui se trouve en Galilée. Et d'autre part, parmi les étapes de cette fin des temps, il y a le retour des Juifs en Palestine avant l'arrivée du millénium, mille ans de bonheur, et puis on ferme la boutique. Ces missionnaires protestants arrivent dans les années 1820, aussi bien de la Nouvelle-Angleterre que de l'ancienne, persuadés que de toute façon, dans les 20 ans, la fin des temps va arriver et qu'il faut donc être sur place. Alors, en chose, comme toujours, quand on annonce la fin des temps, quand on annonce la révolution mondiale, elle ne se produit pas. Ce qui est embêtant. Alors, on s'installe dans la routine. Et dès les années 1830, il y a un partage du travail. Les missionnaires anglais se réservant la Palestine, les missionnaires américains s'établissant ce qu'on appelle à l'époque la Syrie, et qui correspond d'ailleurs plus à notre Liban actuel, moment-là. Et donc, qui s'installe sur la durée. Alors, évidemment, l'accès, cette arrivée massive, on aura l'occasion de revenir, des missionnaires protestants anglo-saxons inquiètent l'Église catholique et les Français, puisqu'ils sont les protecteurs des catholiques. Donc, du coup, on renforce l'action missionnaire catholique dans la région. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, vous avez une course de vitesse entre un missionnaire catholique et missionnaire protestant pour encadrer les populations chrétiennes du Proche-Orient. Mais il y a aussi, en quelque sorte, une mission laïque ou un mot d'ordre laïque dans ces années 1820. 1830. Les discours. Je vous ai expliqué que les Européens, depuis Bonaparte, expliquaient qu'il fallait introduire la civilisation ou pousser la civilisation en tant que mouvement dans l'Empire ottoman et dans ces régions du Proche-Orient. Et je vous avais expliqué combien Mehmet Ali, à partir des années 1820, avait compris que c'était le mot-clé pour parler aux Européens et qu'il avait donc expliqué aux Européens qu'ils étaient, qu'il est lui-même, Attali, était le défenseur de la civilisation au Proche-Orient et que le but de sa dynastie était de civiliser l'Égypte et l'ensemble des pays ottomans. Mais il y a ensuite une seconde étape dans ce cadre de modernisation de son système. Mehmet Ali a envoyé toute une mission, ce qu'on appelle une mission scolaire, un ensemble de jeunes gens, faire leurs études à Paris à partir de 1828. Soyons clairs, les jeunes gens en question ne sont pas des Égyptiens de souche, ce sont des membres de la Beit, de la maison vice-royale, puisque c'est les gens de la classe dirigeante. Mais on leur a flanqué un jeune religieux égyptien, un imam, Ifrat al-Tartawi, pour l'encadrement religieux. Alors le paradoxe, c'est l'égyptien de souche, Ifrat al-Tartawi, qui va beaucoup plus que les élèves eux-mêmes s'intéresser à la société française, ce qui lui permet d'écrire une description de la France au début des années 1830 en arabe, qui a été magnifiquement traduit par mon grand ami, malheureusement décédé depuis quelques années, qui était Edouard Lucas, qui a été d'ailleurs récemment réédité, qui s'appelle sous le titre « L'or de Paris », qui est donc cette description de la France par un jeune Égyptien entre 1828 et 1831, avec en particulier la description des Trois Glorieuses de la chute de Charles X par un Égyptien qui était présent au Caire. Donc c'est un des grands classiques de la littérature arabe du XIXe siècle, L'or de Paris. Vous avez actuellement une magnifique traduction disponible, je crois, chez Sinbad. Donc je vous conseille de lire ce livre si ça vous intéresse. Et ce qui est intéressant pour moi dans L'or de Paris, c'est que Tartawi commence par un essai de traduction du terme « civilisation » en arabe. Il s'appuie sur le vocabulaire tiré d'Ibn Khaldoun, et donc de la pensée classique arabo-islamique, comme vous préférez. Ibn Khaldoun étant revenu à la mode dans les cercles intellectuels arabes et ottomans depuis la fin du XVIIIe siècle. Nous savons qu'il y a une circulation des manuscrits d'Ibn Khaldoun dans cette période. Et Ibn Khaldoun est le premier penseur de la civilisation en tant que tel, puisque c'est au centre de sa philosophie de l'histoire. Donc on voit comment Tartawi essaye, à partir du vocabulaire d'Ibn Khaldoun, de traduire la notion européenne de civilisation. Donc il a plusieurs possibilités et finalement il prend le terme de tamadun, qui exprime le fait de vivre en urbanité avec la notion de processus allant dans ce sens. Donc tamadun sera le terme utilisé en arabe pour traduire civilisation. Les Ottomans font la même opération intellectuelle, en s'appuyant à peu près sur le même vocabulaire. Et eux, ils vont utiliser tamadun aussi, mais ils vont surtout utiliser medaniyet, c'est-à-dire madaniya, en arabe, qui renvoie là aussi au raffinement de l'urbanité par opposition à l'ignorance et à la grossièreté. Mais ce qui compte déjà, c'est que quand Tartawi écrit L'or de Paris et qu'il donne le manuscrit à Mehmet Ali, Mehmet Ali le fait immédiatement traduire en turc et fait distribuer, imprimer le texte. Parce que maintenant, depuis les années 1820, il y a une maison d'édition à Boulak, à côté du Caire. Et ce livre, L'or de Paris, va être distribué à toute la haute fonction publique égyptienne sous ordre du Viceroy. Donc, cette description de la France, cette Paris, et devient une sorte de programme de gouvernement de la vice-royauté égyptienne, endossée officiellement par l'État, puisqu'on distribue le livre à la haute fonction publique. Alors, pour les musulmans, ce terme éclat, Tamadun Madaniya, exprime aussi toutes les merveilles de la modernité au sens de l'amélioration de la condition humaine. Bon, évidemment, quand on lit Tartawi sur la longue durée, il dit « Ah bah oui, les Européens, ils sont plus puissants, ils sont plus forts, mais nous, on a la vraie religion, là. Hein. » Mais dans l'ensemble, il y a une admiration laïque de la puissance et de la modernité qui exprime cette utilisation des concepts de Tamadun et de Madaniya. Ces concepts expriment avant tout des conditions de vie d'ordre matériel et apparaissent comme neutres par rapport à la religion. D'autant plus qu'en Europe, le terme de civilisation, dans un premier moment, a une connotation de civilisation moderne qui est justement anticlérical, puisque le catholicisme est considéré comme réactionnaire. Je vous rappelle qu'un peu plus tard, le syllabus de Pilis condamnera la civilisation moderne. Donc aussi en Europe, dans ce premier sens, civilisation est aussi considérée comme en dehors de la religion. On a ainsi une parfaite illustration du mécanisme des projections politiques entre l'Europe et le monde ottoman. L'Europe a défini un discours-programme, celui de la civilisation. Les pouvoirs orientaux, Égypte et Empire ottoman ici, l'adoptent d'abord dans leur réponse aux exigences européennes. Nous faisons la civilisation, dit-on aux Européens. Puis l'adressent directement à leur propre société, mais pour ce faire, en récupérant des éléments venus du patrimoine culturel de la société, ici en général la tradition raldonienne. On valide ainsi le discours européen qu'il concerne. J'avais jadis montré, quand j'avais fait cette analyse, que dans une première phase, on a un prétexte, c'est-à-dire quand Mehmet Ali dit aux Européens « je défends la civilisation ». Je représente la civilisation, c'est un prétexte, c'est un acte de propagande. Mais quand Mehmet Ali fait distribuer Tartawi à l'administration égyptienne, c'est un texte, c'est un programme de gouvernement et non plus une action de propagande. Et en ce sens-là, les Orientaux passent leur temps depuis 1830, a validé les discours européens ou occidentaux sur eux-mêmes. Et ça continuera encore longtemps, je le crains. Du coup, les occidentaux ne peuvent dire qu'ils ont raison, puisque les orientaux disent le discours qu'ils leur ont prêté. Mais, c'est là le problème, toujours, c'est que depuis la fin du XVIIIe siècle, à chaque fois que les Orientaux font une étape en avant pour rattraper l'Occident, l'Occident fait une étape d'avance, court en même temps, et passe à l'étape suivante. C'est-à-dire au moment où le jeune Tartawi arrive en France, où il est accueilli par Sylvestre de Sacy, par Jomard, etc., il y a Guizot, qui fait son célèbre livre, qu'il faut lire absolument parce que c'est un des monuments de la pensée politique française, « Histoire de la civilisation en France et histoire de la civilisation en Europe », qui sont des cours à la Sorbonne. Et qui, à la fois, d'abord, dans une première phase, est une description du mouvement historique de civilisation en Europe depuis le début du Moyen-Âge, c'est le moment où la notion de Moyen-Âge apparaît dans la pensée européenne. Mais en même temps, Guizot fait la comparaison avec les non-européens. Et il dit que la civilisation en Europe elle est dynamique parce qu'elle progresse constamment par jeu d'opposition dialectique, enfin, je dis pas dialectique, c'est Marx qui lui piquera ça ensuite. Mais il dit donc que la civilisation en Europe, elle est constamment en mouvement depuis les temps germaniques, parce qu'elle est constamment opposition de facteurs, le religieux, le politique, le protestantisme, etc. Bon. Du coup, Guizot dit, mais les sociétés non européennes, elles, elles sont statiques. Et il oppose donc à la notion de civilisation européenne comme dynamique la notion de civilisation orientale comme étant statique, parce que les sociétés orientales apparaissent, pour les Européens, comme spécialisées, comme gelées à un état, comme une essence, en quelque sorte, qui serait incapable de mouvement. Et c'est à partir de cette notion de civilisation spécialisée que dans l'étape suivante, la pensée européenne va définir les civilisations non plus comme la civilisation comme mouvement, mais la civilisation comme état. Et on va bientôt parler de la civilisation arabe, de la civilisation chinoise, de la civilisation indienne. C'est donc qu'on passe du mouvement de la civilisation à la civilisation comme grand ensemble culturel, comme une essence pluriséculaire concernant des espaces géographiques vastes. Alors aujourd'hui, comme on n'ose plus utiliser le terme de civilisation, sauf quand ça fait des conflits de civilisation, on dit ère culturelle, administrativement parlant, mais ça revient au même. Alors, disons en France, mais c'est pratiquement à la même époque, sans utiliser exactement le terme civilisation, que Hegel fait ses cours à Berlin sur la raison dans l'histoire. Et il a exactement la même idée entre la dynamique de l'Europe, de la culture européenne, et le statisme des culture non européenne. Et entre Hegel et Guizot, on est pratiquement dans les mêmes années, avec la même notion. Donc c'est un mouvement qui en touche l'ensemble de la pensée européenne. Donc on arrive à la situation qu'au moment où les Orientaux adoptent le mot d'ordre de civilisation comme mouvement, les Occidentaux commencent à les appeler comme étant des civilisations stagnantes. Ce qui, évidemment, va poser des problèmes. Alors ensuite, ça c'est en dehors de notre cours de cette année et même de quelques années, les Orientaux, à leur tour, vont adopter le discours de la civilisation comme ensemble culturel. Donc, ils vont défendre la civilisation arabe, indienne, chinoise, etc. Encore aujourd'hui, on parlera de valeurs asiatiques ou de valeurs indiennes. Alors, rappelons une fois pour toutes, puisqu'on parle aussi de conflit de civilisation, qui n'est pas une invention de Tuncton, mais qui date de 1900 à peu près, voire même avant. La question fondamentale est de savoir si les civilisations, qui elles existent, personne n'en nie l'existence, les grandes civilisations, sont des acteurs politiques ou non. Bon, il y a des acteurs politiques qui sont des États, mais est-ce que les civilisations sont des acteurs politiques? C'est un autre problème. Alors, en même temps, les églises chrétiennes en Europe, qui combattent la civilisation moderne, en tout cas chez les catholiques et les orthodoxes, pas chez les protestants, parce que les protestants, eux, sont à la tête de la civilisation moderne en Europe, dans les années 1830-1840, affirment que les progrès de l'Europe sont dus à sa nature chrétienne. Ainsi, dans les décennies 1830, les missions chrétiennes en Orient se font au nom de la civilisation chrétienne. Donc on a le paradoxe d'une Église catholique qui condamne la civilisation moderne, mais qui se fait le porte-parole de la civilisation chrétienne. Et donc, il va le fait que les chrétiens d'Orient vont se trouver surencadrés avec l'arrivée massive de tous ces missionnaires catholiques et protestants, plus les secours qui viennent chez les orthodoxes, de missionnaires. Donc, ces chrétiens à qui on explique que la civilisation est chrétienne, ben, il va se sentir supérieur aux musulmans qui, eux, n'ont pas la civilisation chrétienne. Alors, ça a une répercussion dans le réel. C'est que les taux de scolarisation et d'alphabétisation des populations chrétiennes du Proche-Orient dans les années 1820-1840 sont largement supérieurs aux taux de scolarisation et d'alphabétisation des populations musulmanes. Il y a bien une différence considérable de niveau culturel entre les communautés religieuses. Mais non seulement il y a une différence de niveau de scolarisation, mais une ouverture différente sur l'extérieur, puisque pour les musulmans, l'extérieur est un ennemi dangereux, colonial, en quelque sorte. Tandis que les chrétiens, au nom de la civilisation chrétienne, se sentent partager le même univers que les chrétiens européens. Ces chrétiens d'Orient, méconnaissant totalement l'importance du mouvement de laïcisation dans les sociétés européennes de la même période. Puisque, en quelque sorte, il y a une espèce d'utopie catholique en Orient, mais de façon générale dans le système colonial, qui est que plus le catholicisme régresse dans son emprise sur la société européenne, plus il rêve de créer des espaces homogènes chrétiens dans le système, des vraies cités chrétiennes et catholiques dans le système colonial et dans les pays dominés. D'où le fait que les populations locales voient l'Europe comme catholique ou protestante. Ils ne voient pas la laïcisation. Ce qui amènera évidemment des grands malentendus culturels à d'autres périodes. Pour cette première partie de la journée, qui en quelque sorte vous donne ces éléments. On va faire une petite pause et puis on reprend dans 5 minutes.